On s'aperçoit actuellement qu'on est dans une situation de blocage. Il y a une panne du dialogue, il y en a qui refusent la loi travail, le gouvernement est déterminé à y aller, et donc on est dans une épreuve de force. Alors, il y a une antenne sociale dans le diocèse depuis 3 ans qui réunit des responsables économiques de la société, le président de la chambre de commerce, d'industrie, des chefs d'entreprise, des salariés de Renault, du port. Ce sont des chrétiens et on essaye de poser un regard chrétien sur l'actualité socio-économique. Et là, on s'est dit, avec la situation qui se dégrade, et qui impacte négativement la région, l'agglomération havraise, le port notamment, et toutes les activités autour du port, eh bien, il faut absolument qu'on sorte de cette situation de blocage, et on ne peut le sortir que par le dialogue, et non pas dans un affrontement où chacun défend ses positions. Et c'est là-dessus que le principe d'action du pape François, le temps est supérieur à l'espace, nous paraît être un chemin de sortie de crise, c'est-à-dire qu'on accepte d'initier des processus et non pas de camper sur des positions pour défendre des territoires ou un pouvoir.
Est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment que ce dialogue social est aujourd'hui inexistant ?
Je pense que au niveau de la manière de faire, un texte de loi est sorti et on discute après. Mais ce n'est pas les meilleures conditions pour établir un dialogue. Si on veut réformer le code du travail, ce qui était le cas pour moderniser et réformer ce qui est légitime, mais ça supposerait qu'en amont, on puisse mettre les partenaires autour d'une table. Il y a une expression en France qui fait référence, c'est organiser un Grenelle autour du code du travail, comme on aurait dû le faire pour la réforme de la fiscalité. Enfin, on avait publié au niveau de la conférence des évêques en 2014 un texte sur le dialogue social. C'était à propos des restructurations des entreprises. Et on disait, avant d'opérer une restructuration d'entreprise avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour l'emploi, il faut que tous les partenaires puissent se réunir, mais en amont des décisions. Or là, on sort un projet de loi, puis après on discute. Mais tout le monde est excédé et aujourd'hui on arrive à une situation de blocage. Alors finalement, ce n'est pas un dialogue qui construit et qui entrevoit le bien commun. Le dialogue qui se fait après le dépôt de la loi apporte des correctifs et certains disent on a vidé la loi de sa capacité réformatrice, quoi. Parce que on cède, là on a cédé pour les routiers par exemple, sur la question de la rémunération des heures supplémentaires. On avait dit 10%, le gouvernement est revenu en disant on continuera à payer 25%. Enfin, voilà, on y va par petits bouts, et alors qu'on pourrait travailler autrement dans le dialogue et le débat.
Pour parler de votre région, à quel point cette crise sociale impacte la vie économique industrielle du Havre ?
Ça fait 5 ans que le port est en train de remonter au niveau du trafic, notamment du trafic marchandises avec les containers, les porte-containers. Et là, depuis la semaine dernière, plus aucun bateau ne peut rentrer ni sortir. Et du coup, les bateaux, ils n'attendent pas en rade du Havre, ils s'en vont vers les ports d'Anvers et Rotterdam. Ça veut dire que, comme il n'y aura plus de confiance dans les capacités d'accueil du Havre, on risque de perdre du fret avec tout ce que ça comporte de disparition d'emplois et ça viendra impacter aussi toutes les entreprises qui vivent autour du port. Ça, c'est au niveau local, mais il y a aussi le niveau national. 40% du pétrole arrive par le Havre. De même, il va y avoir une coupure. Il y a des oléoducs qui partent du port d'Antifère, qui est une annexe du port du Havre, pour les gros pétroliers. Et des oléoducs amènent le pétrole et le kérosène jusqu'aux aéroports d'Orly et de Roissy. Ça veut dire que dans quelques jours, il n'y aura plus de ravitaillement à Roissy et Orly pour le trafic aérien. L'agglomération havraise est un cœur de vie économique qui est fragile et ces situations de blocage risquent de compromettre l'avenir et du Havre, mais aussi de déstabiliser le reste du pays et de l'économie du pays.
Et de la vie quotidienne des habitants aussi de la région ?
Évidemment, même moi, personnellement, actuellement, je ne peux plus me déplacer. On ne peut plus trouver d'essence dans les stations-service. Tout est déréglementé. Et puis bon, on a l'impression qu'on est parti vers une épreuve de force. Sinon, on va avoir des violences. Et puis, la semaine dernière, il faut quand même signaler qu'au Havre, il y a eu un mort. Un camion coincé dans un barrage a fait demi-tour. Et puis, il y a eu un choc frontal avec une voiture et le conducteur qui arrivait est décédé sur le coup. Donc, avant qu'il y ait des drames, de toute façon, il faudra qu'on puisse négocier pour sortir de la crise. Le plus tôt sera le mieux.
Et s'il y a ces blocages, ces manifestations, ces actions de la part des grévistes dans toute la France, c'est qu'ils ont de réelles inquiétudes pour leur avenir. Comment est-ce qu'on peut y répondre ?
La loi El Khomri, la loi travail, comme on l'appelle, on sait bien que le contenu a été largement allégé, on a retiré beaucoup de choses, mais ça fonctionne comme un symbole de ce que les citoyens refusent et qui manifestent là leur crainte par rapport à l'avenir, notamment les salariés. Ils sont persuadés, à tort ou à raison, que cette loi travail ne va pas créer plus d'emplois, mais que ça viendra réduire les droits et les intérêts acquis. Et donc, ils se crispent, et je pense qu'il faut renouer le dialogue. Et c'est pas en adoptant des attitudes de raideur, que ce soit du côté des grévistes qui bloquent, ou que ce soit du côté du gouvernement qui semble intransigeant, on va au choc frontal, et je crois que là, il faut qu'on en appelle à l'apaisement, et dire il faut d'urgence reprendre les voies du dialogue. Seul le dialogue peut permettre de dépasser les intérêts particuliers des uns et des autres pour entrevoir ensemble le bien commun de la société et le bien commun pour tous. Et ça, je pense qu'il faut qu'on puisse l'entendre. Et l'affrontement ne va rien régler.
Est-ce que, quelque part, ces affrontements, comme vous dites, menacent la démocratie française ?
Je pense effectivement que aujourd'hui, la plupart des citoyens ont le sentiment d'être dépossédés de leur destin, de la maîtrise de leur destin, et d'être dans une sorte d'attitude fataliste. On ne peut rien, on ne croit plus aux responsables politiques, on ne croit plus que la politique peut changer la vie quotidienne, peut nous ouvrir des perspectives d'avenir. Et il me semble que dans les prochaines échéances électorales qui arrivent, la question, c'est pas tellement de faire des promesses. La vraie question, c'est dire quel processus on va initier pour permettre que tous les citoyens soient associés à la vision de ce qui est nécessaire pour l'avenir de notre société. Une démocratie participative. On commence à sentir les limites d'une démocratie représentative où les citoyens ont le sentiment d'être totalement dépossédés. Et je pense que là, il y a une réflexion profonde avant les échéances électorales de l'an prochain, législatives et présidentielles, pour réfléchir un peu comment associer davantage les citoyens à l'élaboration de perspectives d'avenir, de développement solidaire, de participation citoyenne. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable pour l'avenir de la démocratie.